Terzi était en train de prononcer un discours sec à phrases très courtes. Jacopo pensait que pour émettre la sonnerie, il lui faudrait lever les yeux au ciel et que le soleil l'aveuglerait. Mais ainsi meurt un trompette, et vu qu'on ne meurt qu'une fois, autant valait le faire bien. Puis le commandant lui avait murmuré « à présent ». Et il avait commencé à crier « garde à vous !» Et Jacopo ne savait pas comment on sonne un garde à vous. La structure mélodique devait bien être plus complexe, mais à cet instant, il n'avait été capable que de sonner « do mi sol do ». Et à ces rudes hommes de guerre, cela paraissait suffire. Le do final, il le lança après avoir repris son souffle, de façon à le tenir longtemps, pour lui donner le temps, écrivait Belbo, d'atteindre le soleil. Les partisans étaient raides, au garde-à-vous, les vivants immobiles comme les morts. Seuls se déplaçaient les fossoyeurs, on entendait le raclement des cercueils qui descendaient dans les fosses et le déroulement des cordes remontées alors qu'elles frottaient contre le bois. Mais c'était un mouvement faible, comme le frémissement d'un reflet sur une sphère, où cette légère variation de lumière sert seulement à dire que dans la sphère, rien ne s'écoule. Ensuite, le bruit abstrait d'un présenté arme. Le prévôt avait murmuré les formules de l'aspersion. Les commandants s'étaient approchés des fosses et ils avaient jeté chacun une poignée de terre. Et c'est alors qu'un ordre subit avait déchaîné une salve vers le ciel. Ta-ta-ta-ta, poum ! Avec les petits oiseaux qui s'élevaient en piaillant des arbres en fleurs. Mais cela non plus n'était pas mouvement, c'était comme si toujours le même instant se présentait sous des perspectives différentes, et regarder un instant pour toujours ne veut pas dire le regarder pendant que le temps passe. Raison pourquoi Jacopo était resté immobile, insensible même à la chute des douilles qui roulaient entre ses pieds, et il n'avait pas remis la trompette à son côté. Mais il la tenait encore à sa bouche, les doigts sur les pistons, raides, au garde-à-vous, l'instrument pointé en diagonale vers le haut, il était encore en train de sonner. Sa très longue note finale ne s'était jamais interrompue, imperceptible aux assistants. Elle sortait encore du pavillon de la trompette tel un souffle léger, une bouffée d'air qu'il continuait à insuffler dans l'embouchure en tenant la langue entre ses lèvres à peine ouvertes, sans les presser sur la ventouse du laiton. L'instrument demeurait tendu en avant sans s'appuyer au visage, par pure tension des coudes et des épaules. Jacopo continuait à émettre cette illusion de notes parce qu'il sentait qu'en ce moment-là, il dévidait un fil qui bridait le soleil. L'astre s'était bloqué dans sa course. Il s'était fixé dans un midi qui aurait pu durer une éternité. Et tout dépendait de Jacopo. Il lui suffisait d'interrompre ce contact, de lâcher le fil, et le soleil aurait rebondi loin, comme un petit ballon, et avec lui le jour et l'événement de ce jour, cette action sans phase, cette séquence sans avant, sans après, qui se déroulait immobile pour la seule raison qu'il était ainsi en son pouvoir de vouloir et de faire. S'il s'était arrêté pour souffler l'attaque d'une nouvelle note, on aurait entendu comme un déchirement, bien plus retentissant que les salves qui l'assourdissaient, et les horloges se seraient remises à palpiter, tachycardiques. Jacopo désirait de toute son âme que l'homme à côté de lui ne commandât pas le repos. « Je pourrais m'y refuser, se disait-il, et il resterait ainsi à jamais. Fais durer ton souffle tant que tu peux !» Je crois qu'il était entré dans cet état d'engourdissement et de vertige qui s'empare du plongeur lorsqu'il tente de ne pas remonter à la surface et veut prolonger l'inertie qui le fait glisser sur le fond. À telle enseigne que pour chercher à exprimer ce qu'il ressentait alors, les phrases du cahier que je lisais maintenant se brisaient, asyntaxiques, mutilées par des points de suspension rachitiques d'ellipses. Mais il était clair qu'à ce moment-là... Non, il ne s'exprimait pas ainsi, mais c'était clair, à ce moment-là, il possédait Cecilia. C'est qu'à cette époque, Jacopo Belbo ne pouvait avoir compris, et il ne comprendrait pas encore tandis qu'il écrivait ignorant de lui-même, qu'il était en train de célébrer une fois pour toutes ses noces chimiques avec Cecilia, avec Lorenza, avec Sofia, avec la terre et avec le ciel. Peut-être le seul d'entre les mortels à porter enfin à son terme le grand œuvre. Personne ne lui avait encore dit que le Graal est une coupe, mais aussi une lance, et que sa trompette levée en calice était en même temps une arme, un instrument de très douce domination qui lançait ses flèches vers le ciel et réunissait la terre avec le pôle mystique. Avec l'unique point immobile que l'univers eût jamais eu, avec ce qu'il faisait être, pour ce seul instant, grâce à son souffle. Diotalevi ne lui avait pas encore dit qu'on peut être en Yézod, la séphira du fondement, le signe de l'alliance de l'arc supérieur qui se tend pour envoyer les flèches à la mesure de Malkout, qui est sa cible. Yézod est la goutte qui jaillit de la flèche pour produire l'arbre et le fruit. C'est l'anima mundi, parce qu'elle est le moment où la force virile, en procréant, lie entre eux tous les états de l'être. Savoir filer ce singulum veneris signifie remédier à l'erreur du démiurge. Comment peut-on passer une vie à chercher l'occasion sans s'apercevoir que le moment décisif, celui qui justifie la naissance et la mort, est déjà passé? Il ne revient pas, mais il a été irréversiblement plein, resplendissant, généreux comme toute révélation. Ce jour-là, Jacopo Belbo avait fixé la vérité dans les yeux, la seule et unique qui lui serait permise. Car la vérité qu'il apprenait, c'est que la vérité est très brève. Après, elle n'est que commentaire. C'est pourquoi il tentait de dompter l'impatience du temps. Il ne l'avait pas comprise à l'époque, certainement, et non plus quand il en écrivait ou quand il décidait de n'en plus écrire. Pour ma part, je l'ai compris ce soir. Il faut que l'auteur meure pour que le lecteur s'aperçoive de sa vérité. L'obsession du pendule qui devait accompagner Jacopo Belbo durant toute sa vie adulte avait été, comme les adresses perdues dans les rêves, l'image de cet autre moment enregistré et puis refoulé où il avait vraiment touché la voûte du monde. Et cela, le moment où il avait gelé l'espace et le temps en décochant sa flèche de Zénon, n'avait pas été un signe, un symptôme, une allusion, une figure, une signature, une énigme. C'était ce qui était et qui ne remplaçait rien d'autre, le moment où il n'est plus de sursis, où les comptes s'égalisent. Jacopo Belbo n'avait pas compris qu'il avait eu son moment, qui aurait dû lui suffire pour toute sa vie. Il ne l'avait pas reconnu, il avait passé le reste de ses jours à chercher autre chose, jusqu'à se damner. Ou peut-être en avait-il eu le soupçon, autrement il ne serait pas revenu aussi souvent sur le souvenir de la trompette. Mais il se la rappelait comme perdue. En revanche, il l'avait eu. Je crois, j'espère, je prie qu'à l'instant où il mourait en oscillant avec le pendule, Jacopo Belbo l'a compris et qu'il a trouvé la paix. Puis avait été commandé le repos. Il aurait cédé quoi qu'il en fût, car le souffle lui manquait. Il avait interrompu le contact et sonné une seule note haute et à l'intensité décroissante, tendrement, pour habituer le monde à la mélancolie qui l'attendait. Le commandant avait dit « Bravo, jeune homme !» Tu peux partir, belle trompette. Le prévôt s'était esquivé, les partisans s'étaient dirigés vers une grille du fond où les attendaient leurs véhicules. Les fossoyeurs s'en étaient allés après avoir comblé les fosses. Jacopo était sorti le dernier. Il n'arrivait pas à quitter ce lieu de bonheur. Sur l'esplanade, la camionnette de l'oratoire avait disparu. Jacopo s'était demandé comment cela se faisait. Don Tico ne l'aurait jamais abandonné comme ça. Avec le recul du temps, la réponse la plus probable, c'est qu'il y avait eu malentendu. Quelqu'un avait dit à Don Tico que les partisans reconduisaient le petit gars dans la vallée. Mais Jacopo, à ce moment-là, avait pensé, et non sans raison, qu'entre le garde-à-vous et le repos, trop de siècles s'étaient écoulés. Que les enfants avaient attendu jusqu'à la canicie, à la mort, et que leur poussière s'était dispersée pour former ce voile de brume qui maintenant azurait l'étendue des collines devant ses yeux. Jacopo était seul. Derrière lui, un cimetière désormais vide, dans ses mains, la trompette, en face de lui, les collines qui s'estompaient de plus en plus bleues, l'une derrière l'autre, vers la gelée de coin de l'infini, et vindicatif sur sa tête, le soleil en liberté. Il avait décidé de pleurer. Mais soudain était apparu le char funèbre, avec son automédon paré comme un maréchal d'empire, tout crème, noir et argent, les chevaux bardés de masques barbares, qui ne laissaient découverts que les yeux, caparaçonnés comme des cercueils, les colonnettes torses qui soutenaient le tympan assyro-égypto-grec, tout blanc et or. L'homme aux bicornes s'était arrêté un instant devant ce trompette solitaire et Jacopo lui avait demandé « Pourriez pas me ramener à la maison ?» L'homme était bienveillant. Jacopo était monté sur le siège à côté de lui et sur le char des morts avait commencé le retour vers le monde des vivants. Ce charron, qui n'était pas en service, et prenait taciturne ses coursiers funèbres le long des escarpements. Jacopo, droit et hiératique, la trompette serrée sous son bras, la visière luisante, pénétrée de son nouveau rôle, inespéré. Ils avaient descendu les collines. À chaque tournant s'ouvrait une nouvelle étendue de vignes bleues de sulfate, toujours dans une lumière qui aveuglait. Et, après un temps incalculable, ils avaient abouti au village. Ils avaient traversé la grande place, tout en arcade, déserte, comme seules peuvent être désertes les places du Mont Ferrat à 2 heures de l'après-midi un dimanche. Un camarade d'école au coin de la grande place avait aperçu Jacopo sur le char, la trompette sous le bras, l'œil fixé sur l'infini, et il lui avait fait un signe d'admiration. Jacopo était rentré. Il n'avait pas voulu manger, ni rien raconter. Il s'était blotti dans un coin de la terrasse et mis à jouer de la trompette, comme si elle avait une sourdine, en soufflant doucement pour ne pas troubler le silence de cette sieste-là. Son père l'avait rejoint, et sans méchanceté, avec la sérénité de celui qui connaît les lois de la vie, il lui avait dit « D'ici un mois, si tout se passe comme prévu, on retourne à la maison. Tu ne peux pas songer à jouer de la trompette en ville, le propriétaire nous mettrait à la porte, donc commence par l'oublier. Si vraiment tu as un penchant pour la musique, nous te ferons donner des leçons de piano. » Et puis, le voyant avec les yeux qui luisaient, « Allons, grand bêtard, tu te rends compte que les vilains jours sont finis ?» Le lendemain, Jacopo avait rendu la trompette à Don Tico. 2 semaines plus tard, la famille abandonnait le village, revenant au futur.